Le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'Italie osera-t-elle un jour lever l'omerta sur les violences sexuelles dans l'église? Le pays a pris beaucoup de retard sur ses voisins européens. Et c'est encore le silence qui règne bien souvent dans les paroisses transalpines. Des victimes se mobilisent cette semaine, nous serons à Rome. Les États-Unis, la Chine ont déjà leurs projets. L'Europe veut aussi sa constellation de satellites, enjeu majeur pour sécuriser les communications du vieux continent. Les 27 sont réunis aujourd'hui pour en parler à Toulouse. Dans ce journal aussi, les derniers préparatifs de la candidature Macron, l'espoir d'un traitement allégé contre le sida, et au JO de Pékin, une bonne chance de médaille française en ski alpin.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. J'ai nommé Josep Borrell. C'est l'un des rares pays européens, Alexis, à échapper encore à la libération de la parole dans l'église.
L'Italie a bien du mal à lever le tabou des abus sexuels commis par des prêtres, contrairement à plusieurs de ses voisins, dont la France. Aucune commission d'enquête n'est pour l'instant mise en place de l'autre côté des Alpes. Et c'est encore bien souvent l'omerta qui règne dans ce pays, terre de la papauté, où l'église est toujours très présente. Mais des associations de victimes veulent lever cette chape de plomb. Elles lancent donc une campagne baptisée Au-delà du silence pour faire pression sur les autorités. C'est le reportage de Bruce de Galzin.
Les victimes s'expriment, comme cet homme de 40 ans, fils d'un prêtre pédophile qui a violé sa mère à 14 ans. Comme cette famille catholique qui, 10 ans après l'agression de leur fils, se voit dire par leur curé de ne pas cracher dans la soupe. Antonio Messina, lui, parle pour la première fois en public. L'église a voulu acheter son silence, dit-il.
Ils m'ont proposé une somme d'argent par l'intermédiaire de la Caritas du diocèse de manière illicite, avec des paiements au noir. En échange, je devais signer une clause de confidentialité.
L'évêque affirme le contraire, mais le procès est en cours. Les associations réclament un véritable état des lieux, car jusque-là, rien n'est fait, explique Francesco Zanardi. Lui-même abusé, il a créé la seule association de défense des victimes.
L'Italie est une anomalie dans le panorama mondial. La situation doit effrayer le gouvernement italien si l'on regarde ce qui s'est passé en France, car ils ont comptabilisé 216 000 victimes de prêtres, et en Italie, on a 30 000 prêtres de plus qu'en France. Mais ici, il y a trop de réticences des institutions et des magistrats.
Certains évêques se disent prêts à lancer une enquête, mais sera-t-elle indépendante dans un pays où l'Église est encore protégée par les institutions? Les associations comptent désormais sur l'opinion publique. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Il est 7h33, l'Europe, Alexis, a la tête dans les étoiles aujourd'hui.
Toulouse, la ville de l'espace, accueille aujourd'hui tous les ministres européens en charge du dossier. Quel rôle, quelle place pour l'UE dans la bataille spatiale? À l'ordre du jour, notamment, cette nouvelle constellation de satellites de communication que Bruxelles imagine dès 2024. Sophie Becherel pour les explications.
Le secteur spatial est sur le devant de la scène et on en parle chaque jour pour les services rendus par les satellites. Suivi de la pollution, géolocalisation, aide à la pêche, prévision météo et désormais constellation de satellites de télécommunication. L'Europe veut la sienne, elle ne veut pas laisser la main aux seuls Américains ni dépendre d'eux. Hier, la Commission a donc proposé un plan pour une nouvelle constellation pour un montant de 6 milliards d'euros. Problème, tous ces satellites vont s'ajouter à ceux qui occupent déjà largement l'espace. D'ici 10 ans, 20 000 engins supplémentaires seront lancés. Les risques de collision augmentent. Il faut donc penser à gérer sérieusement ce trafic. Et là encore, les Européens pensent qu'ils doivent pousser leur propre projet de règles de savoir-vivre dans l'espace. Il en sera question aujourd'hui. Les ministres parleront aussi du changement climatique. Il faut assurer la continuité de Copernicus, cette flotte de satellites vigie de la planète. Il manque pour boucler le budget 700 millions d'euros. On verra enfin si l'idée d'un accès autonome à l'espace habité est défendue. Les compétences scientifiques et techniques européennes sont là. Il faut maintenant un choix politique.
Ce n'est maintenant plus qu'une question de jours, voire d'heures. La France et ses partenaires européens s'apprêtent à annoncer d'ici la fin de la semaine leur retrait militaire du Mali, sûrement à l'occasion du sommet Europe-Afrique prévu demain à Bruxelles, ou même peut-être avant, puisque le président français reçoit ce soir à l'Élysée les chefs d'État de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, car l'enjeu maintenant c'est de redéployer la force Barkhane ailleurs dans la région. Le président ukrainien veut des drapeaux bleus et jaunes aux fenêtres. Volodymyr Zelensky appelle ses compatriotes à exprimer leur leur patriotisme aujourd'hui à l'occasion d'une journée de l'unité face à la menace d'une invasion russe. Menace qui s'éloigne peut-être un peu après l'annonce par Moscou d'un début de retrait des troupes massées aux frontières de l'Ukraine. Mais les Occidentaux sont extrêmement prudents à l'image de Joe Biden. Ce serait positif, réagit le président américain, mais nous ne l'avons pas encore vérifié à ce stade. La crise ukrainienne, c'était l'une des raisons avancées par Emmanuel Macron pour ne pas annoncer dès maintenant sa candidature à un second mandat. L'agenda est encore chargé cette semaine, mais les choses pourraient donc vite se calmer, comme elles s'améliorent aussi sur le plan sanitaire. La fenêtre de tir approche, Simon Le Baron. En tout cas, du côté d'En Marche, tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton.
Il est de dos, certes, et flou en plus, mais pour la première fois, Emmanuel Macron apparaît sur les 500 000 nouveaux tracts distribués à partir de ce matin par les marcheurs. Un signe parmi d'autres que les choses se précisent. On est « ready to go » s'enthousiasme dans un élan très macronien et en franglais un cadre du QG de campagne. Le planning des 15 premiers jours est prêt, abonde un conseiller du gouvernement. Beaucoup de bains de foule, 3 ou 4 grands meetings, au moins un à Paris, un à Marseille et un dans l'Ouest, assure un futur membre de l'équipe, et des interventions médias déjà qualifiées. Ne reste plus qu'à savoir quand le président deviendra candidat. L'Élysée fait tout pour préserver l'effet de surprise et assure qu'il peut faire durer le suspense jusqu'au tout dernier moment autour du 4 mars. Mais ses amis observent dans un sourire qu'il n'a quasiment rien de prévu la semaine prochaine, mis à part le salon de l'agriculture samedi 26, comme s'il voulait se laisser le maximum d'espace pour se lancer enfin dans la bataille.
Pendant ce temps, au Rassemblement National, on préfère anticiper une défection probable. Le parti suspend Nicolas Bay de toutes ses fonctions. Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle sur son ralliement prochain à Éric Zemmour. L'eurodéputé est donc poussé au départ pour avoir transmis des éléments stratégiques de la campagne de Marine Le Pen à son concurrent. Une accusation grossière, réplique Nicolas Bay. Il est grand temps de dépoussiérer la boule à facettes. Après 10 nouvelles semaines porte close, les boîtes de nuit rouvrent aujourd'hui avec passe vaccinale à l'entrée, mais le masque n'y est désormais plus obligatoire. Nouvel allègement des restrictions ce matin avec aussi la reprise des concerts debout. Enfin, il est de nouveau possible de manger dans les trains. Eux n'ont finalement pas vraiment souffert des dernières contraintes sanitaires et ils profitent aujourd'hui à fond de la reprise économique. Les exportateurs français de vins et spiritueux font le bilan de l'année 2021 et il est historiquement bon pour le champagne, les bordeaux et autres cognacs, Agnès Soubiran.
Un chiffre d'affaires record de 15,5 milliards d'euros, en hausse de 28% par rapport à 2020, une année
exceptionnelle sur toutes les destinations, sur toutes les catégories.
César Giron, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français. Une année exceptionnelle donc, résultat d'une levée des droits de douane américains et d'une envie de se faire plaisir.
Et donc du coup, ils sont tous devenus un peu barman en faisant des cocktails à la maison. Et ils sont tous devenus un petit peu sommeliers en prenant des vins de plus haute qualité. Et c'est donc une tendance mondiale que l'on retrouve en cocooning en fait dans tous les pays du monde.
États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, Singapour, ce sont les 5 pays qui achètent le plus de produits français. En tête, le champagne, un tiers des exportations, puis les vins de Bordeaux, Philippe Castéja de la maison Borimanou.
L'assemblage des cabernets et des merlots que l'on trouve dans le vin de Bordeaux leur permet de voyager et d'être d'une très grande qualité à l'arrivée.
Cette euphorie ne doit pas cacher les difficultés actuelles avec une équation qui reste difficile. Nathalie Doucet, une des rares femmes à la tête d'une maison de champagne, baissera de Belfonds.
Il y a une augmentation de toutes les matières premières, que ce soit le verre, le bois, le papier, les cartons. On a beau anticiper, il faut que l'on jongle. Effectivement, c'est un petit peu compliqué.
Autre inquiétude, les mauvaises récoltes après les gelées du printemps. Selon le ministère de l'Agriculture, la production de vin français a chuté de 23% l'an dernier.
Agnès Soubiran, les éleveurs français en revanche ont moins le sourire. Ils craignent l'issue des négociations en cours sur les prix avec les industriels et la grande distribution. Elles doivent s'achever à la fin du mois. Alors hier soir, 200 agriculteurs ont investi le centre-ville du Mans avec leurs tracteurs, ils ont déversé des tas de fumier et de détritus devant la préfecture de la Sarthe. Elle a révolutionné la vie des malades du sida, mais la trithérapie reste un traitement lourd à prendre toute la vie, tous les jours. Pourrait-on l'alléger, ce traitement ? Des chercheurs français viennent de tester la trithérapie 4 jours sur 7 seulement. Et les résultats de leur étude sont plutôt prometteurs, Véronique Julia.
L'enjeu d'une prise de médicaments réduite à 4 jours est multiple. On limite la toxicité à long terme de ces traitements à vie. C'est plus pratique, mieux toléré. Et c'est aussi moins cher puisque le traitement continu coûte plus de 7000 euros annuels. En limitant les prises, on le réduit à environ 4000 euros. L'étude a porté sur 636 patients ayant une charge virale indétectable depuis au moins un an et pas de résistance au traitement. La moitié a pris 4 comprimés par semaine, l'autre moitié 7 comprimés. Au bout de 48 semaines, les résultats confirment, d'après les auteurs et notamment le docteur Pierre de Truchy, qu'une trithérapie allégée est donc possible et tout aussi efficace.
Dans les deux groupes-là, il y a moins de 5% de charge virale détectable en un an. C'est un taux qui est tout à fait habituel et attendu, même pour des gens qui ont le traitement de référence. Ça confirme tout à fait le succès de cette stratégie.
L'étude confirme par ailleurs une amélioration de la qualité de vie des patients qui réduisent les prises.
C'est pas forcément tout le monde, mais le fait de ne pas prendre le vendredi, samedi, dimanche donne une espèce de sensation de liberté qui est soulignée par les patients.
Malgré ces bons résultats et tout en reconnaissant que cet allègement thérapeutique est une piste, certains infectiologues ne sont pas encore totalement convaincus et pointent des risques d'échappement chez certains patients. Pour pleinement valider les choses, des études virologiques complémentaires et d'efficacité à plus long terme sont en cours d'analyse.
Et puis aux Jeux Olympiques de Pékin, une nouvelle médaille française à l'instant et elle est en or en ski alpin. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour.
C'est Clément Noël qui vient de remporter le slalom.
Après le bronze de Mathieu Fèvre dans le combiné, l'argent d'Yoann Clarlet dans la descente, encore une compétition reine dans le ski alpin, c'est le slalom remporté brillamment par un jeune homme de 24 ans, Clément Noël, qui n'a remporté qu'une seule victoire en Coupe du Monde cette saison, qui a essuyé des contre-performances nombreuses et qui l'a, eh bien, évidemment, fait la plus belle performance de sa carrière à 24 ans. Lui qui est montré du doigt par tout le monde comme quelqu'un qui amène un vent de fraîcheur dans cette discipline avec une technique moderne, des courbes rapides, efficaces, pas de chichi et de l'efficacité, on le voit dans le chrono, 1:44.09, c'est le temps cumulé sur les deux manches, il devance un Autrichien, Johannes Trolls, qui était il y a 3 jours champion olympique du combiné, et un Norvégien, Sébastien Fosse-Solvac. C'est la première médaille d'or du ski alpin français depuis 2006 avec Antoine Deneria.
Merci Guillaume Batin, et c'est donc la 13e médaille pour le camp tricolore à Pékin.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre.